Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation. On te retrouve après cette émission. Comme toujours, c'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui vont vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevons Martine Dedieu. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vue. On est content de la retrouver, hein, qui est première adjointe en charge de la culture, des animations, du tourisme et du thermalisme. Et Guillaume Cournil, directeur du musée de Borda de Dax. C'est pour dire qu'on a du beau monde aujourd'hui dans le studio. Bonjour tous les deux, comment allez-vous?
Très très bien. Alors, je suis aussi en charge de la protection animale.
Ah, la protection animale aussi.
Particulièrement à cœur.
Ah, d'accord.
Ça n'a rien à voir avec la culture, avec
non,
l'animation.
C'est vrai. Voilà.
Mais ce n'est pas grave, mais je tenais vraiment qu'on le précise.
Très bien, merci bien. Alors, on va passer une petite heure ensemble, on va découvrir ce qui se passe à Dax en ce moment, au musée, et hors les murs aussi. Parce qu'il y a un événement un peu particulier, c'est intéressant de pouvoir en parler parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de nos auditeurs. On va d'abord écouter le flash info national et international et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Et voilà, c'est parti. Donc, nous avons nos invités aujourd'hui, donc Martine Dedieu et Guillaume Cournil. Alors, je crois que Martine voulait commencer, va nous parler évidemment. Elle est très fière de ce qui va se passer, évidemment, hein, parce que c'est normal.
Bien sûr.
C'est normal.
Je suis toujours très fière de ce qui se passe dans la culture à Dax,
voilà.
Que ce soit pour la crypte, que ce soit pour le musée, mais que ce soit aussi pour l'école d'art plastique, le conservatoire de musique de danse, l'atrium et la saison culturelle. Je suis très, très, très fière de tout ça, de toutes ces équipes qui travaillent autour de moi, qui font un travail fabuleux, remarquable, et on va encore pouvoir effectivement le constater ce week-end avec les journées romaines. Journées romaines, donc samedi, dimanche, 30 et 31 mai, de 9h30 à 18h, alors dans plusieurs lieux, il va y avoir le parc des arènes, sur le site antique. Le site antique, c'est la rue Cazade, vous savez, où il y a la crypte. Voilà.
Oui.
Au niveau des arènes, alors bon, nous sommes avec Guillaume, là, que j'ai à côté de moi, que je félicite et que je remercie aussi pour tout le travail qu'il fait, un travail fabuleux avec toute son équipe. Au niveau des... quelque chose de nouveau, parce qu'il y a 2 ans, on avait fait venir des gladiateurs,
oui,
toujours aux arènes, ce qui leur correspondait aussi,
oui,
en soirée, mais une soirée. Mmh. On avait pu, ça avait été un spectacle qui était très agréable, qui a vu vraiment un public nombreux, et c'est pour ça qu'on a vraiment confiance sur ces prochaines journées romaines, et on avait pu essayer, ce que j'avais fait d'ailleurs, leur casque qui était très très lourd, mais il y avait eu vraiment un engouement terrible. Et donc, suite à ça, Guillaume me dit, bah, tiens, on pourrait peut-être essayer de faire quelque chose, mais déjà sur 2 jours. Et là, on va parler, bien sûr, des journées romaines qui correspondent tout à fait à ce qui se passe en ville, puisque nous sommes une ville d'art et d'histoire. Nous avons vraiment énormément de vestiges. Donc, bien sûr, ça correspondait tout à fait. Allez, banco, on y va. Donc, effectivement, samedi et dimanche, la ville de Dax sera une ville romaine. Elle a toujours été, mais
oui,
elle
voilà.
sera davantage.
Oui.
Exactement. Donc, au niveau des arènes, il va y avoir, eh bien, dans un premier temps, il va y avoir un village antique qui va être construit, si on appelle, on peut pas dire ça construit, qui va être proposé, que l'on va pouvoir visiter, avec différentes choses à faire. Guillaume vous en parlera beaucoup mieux que moi. Il va y avoir des visites commentées au niveau de la crypte. On va ouvrir à 9h. Alors là, il va y avoir tous les légionnaires qui vont partir des arènes et qui vont s'avancer dans la ville de Dax,
oui,
qui vont faire un petit peu le tour de la ville de Dax.
Ils vont reconquérir la ville, comme autrefois.
Ils vont, exactement. Ils sont habitués à la faire en général aux alentours des fêtes de Dax. Là, ils vont s'entraîner.
Oui.
Ils vont y arriver un petit peu plus tôt. Et puis, bien sûr, on va avoir des ateliers de démonstration que nous aurons, bien sûr, dans les arènes. Donc voilà, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est aussi important, parce que faire des choses rituellement, on peut l'entendre, mais là, c'est quelque chose de nouveau. On essaye de voir ce que ça va donner. On en parlait tout à l'heure, peut-être on affinera, on changera peut-être le modèle, on va voir.
Oui.
On espère bien sûr qu'il va y avoir beaucoup de monde, que les gens vont être curieux de ce qui se faisait autrefois. On a déjà un petit peu, Guillaume et son équipe le font déjà un petit peu au niveau de la crypte régulièrement, c'est-à-dire qu'on peut aller la visiter, et les soirs où on la visite, ou les jours où on la visite, ils nous proposent des mets à déguster, des vins de cette époque-là à déguster. Là, on pourra le faire, mais sur 2 jours. En plus, on va avoir du beau temps, on va pas avoir une grosse chaleur, c'est ce qu'il nous faut.
C'est parfait.
Et donc, je pense effectivement qu'on va avoir quelques moments sympathiques, originaux, sympathiques. Et puis, on en reparlera une fois que ça sera fini pour faire le bilan de tout ça.
Oui, bien sûr. Alors, c'était sous quelle forme il y a 2 ans ? C'était juste des gladiateurs qui étaient là, dans les arènes ?
C'était des gladiateurs qui avaient construit leur tente et qui expliquaient comment est-ce qu'ils se battaient à l'époque. Alors déjà, il y avait déjà leur costume. Et ils expliquaient comment ils se battaient. Mmh. Et les spectateurs, on a vu plus de 2500 personnes qui étaient là. Ah oui. Et les spectateurs qui étaient là pouvaient leur poser des questions. Mmh. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Et donc eux répondaient sur comment ça se passait. Tout ça. Ils ont expliqué quand ils se battaient. Vous savez, bon, je fais les gestes, personne ne me voit, il faudrait la télé. Ouais, et vous savez, ils expliquaient comment est-ce qu'ils se battaient, comment est-ce qu'ils se protégeaient. Mmh. Voilà, ils ont expliqué leur tenue, bien entendu, mais aussi leurs armes, voilà, tout ça. Et ça, c'était, je vous dis, il y avait eu vraiment... Alors moi, j'avais été impressionnée parce que quand j'étais arrivée, pas spécialement en avance, mais il y avait une queue immense. Et Guillaume m'avait dit, il y avait plus de... C'est vrai, on a vu après, bien sûr, dans les arènes, plus de 2500 personnes. Et donc, suite à ça, on s'est dit, mais pourquoi pas faire autre chose. Surtout, voilà, Guillaume m'a proposé ça. Je trouvais que c'était une très, très riche idée, c'est ce que je vous ai dit. Mais je vous dis, en plus, ces gladiateurs-là nous avaient proposé d'essayer leurs masques qui sont très, 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 très lourds. C'était très, très sympa parce qu'en fin de compte, vous savez, quand vous les voyez se battre comme ça, bon, vous trouvez que c'est sympa.
Facile,
mais même l'arme est toujours très, très lourde, le casque. C'était vraiment... c'était original, instructif. Et puis bon, ça changeait un petit peu de ce qu'on est habitué à voir.
Oui, très bien. En tout cas, l'affluence a démontré une chose, c'est que ça intéresse les gens.
Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes allés là aujourd'hui sur les journées romaines.
Alors, je vais demander à Guillaume, est-ce qu'il y a une saisonnalité particulière par rapport à cet événement ? Est-ce que ça correspond à un calendrier antique ou pas ou...
Alors, pas vraiment. Ça correspond surtout à un calendrier météorologique, on va dire, parce que c'est une activité, c'est une manifestation qui sera en plein air. On a une quarantaine de participants qui vont faire des démonstrations, qui vont avoir du matériel, qui vont montrer. Il y aura des petits ateliers. Donc, tout ça, c'est quand même mieux de pouvoir le faire en plein air. On a une programmation riche au musée. Donc, il a fallu trouver le créneau qui colle et qui colle avec le reste de la programmation de la ville parce que c'est pas rien, mais il y a beaucoup beaucoup d'événements et donc c'est tombé sur 30-31 mai. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais du point de vue climatique, on est super bon.
Passe mon temps à faire la météo pour les auditeurs, j'y prends garde.
C'est un beau cadeau de fête des mères.
Tout à fait.
Ah, oui.
C'est un beau cadeau de fête des mères.
C'est vrai.
Oui. Ouais, ça fait on a une sortie. Une belle sortie avec des choses à voir et à faire, parce que surtout, il y a des choses à faire. Il y aura des ateliers.
Oui, ça, c'est ça. Les ateliers, ça, c'est toujours sympa parce que on n'est pas que spectateur. On peut aussi découvrir des choses de manière plus concrète et interactive.
Je tenais à dire que faire des choses, c'est vraiment ce que fait Guillaume au niveau de la crypte, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que Guillaume, tout ce qu'il propose en général, vous passez pas comme ça vite fait. En général, vous avez des choses ou à dessiner ou à chercher. Il y avait encore la nuit des musées la samedi soir. Bien sûr, j'y suis passée. Et au niveau de la crypte, il y avait une énigme que l'on pouvait écrire. Enfin, c'était pas une énigme exactement.
On reproduisait la tablette de défiction. Là, c'est-à-dire on a jeté.
Et il y a toujours Guillaume à ça, c'est qu'il fait vraiment participer tous les gens qui viennent là, et gratuitement, il faut le dire, gratuitement.
Effectivement,
c'est des occasions de, on va dire, de désacraliser un peu la culture, parce que c'est vrai que quand on pense archéologie, musée, certaines personnes ont des représentations qui sont pas tout à fait celles des musées aujourd'hui. C'est du concret, c'est-à-dire que comme on le disait, il y aura des gladiateurs. Si vous voulez savoir ce que portait un gladiateur, on vous mettra un casque sur la tête et vous réaliserez que les grands combats qui durent 2 heures, ça n'existait pas, quoi.
Et oui, c'est ça. Il faut oublier les péplums. On a tous en tête. Et alors d'ailleurs, je pense qu'on doit avoir pas mal de préjugés par rapport. Alors les arènes, qu'est-ce qui s'y passait à l'époque des Romains ? Est-ce que vraiment c'était le spectacle, le combat essentiellement contre les gladiateurs ? Les pauvres chrétiens mangés par les lions, c'était quoi le programme des festivités chez les Romains ?
Alors, il faut se replacer dans le contexte. C'était des spectacles qui étaient des spectacles complets qui duraient toute une journée. Alors, ça a évolué au fil du temps, parce que ça a duré plusieurs siècles, la pratique de ces spectacles et combats. La plupart du temps, c'est des riches notables qui vont payer ces jeux. Donc, ils vont s'adresser à des entrepreneurs de spectacles qui sont les gens qui ont des équipes de gladiateurs. Mmh. On appelle ça des familles de gladiateurs. Voilà. Et ces familles de gladiateurs proposent des spectacles clés en main avec certains gladiateurs, alors très codifiés, hein, tout ça. Il y a des arbitres, il y a des gladiateurs qui se battent contre d'autres gladiateurs avec des... On pense par exemple au Rétière avec son filet et son trident. Bah, en face, il a un gladiateur qui a un casque avec un cimier, un bouclier et un glaive court.
Oui, voilà.
C'est très codifié.
Oui, c'est ça. Et, c'est un peu comme le catch moderne, on va dire. Y a,
voilà, sauf que là, quand même... c'était
mise à mort.
Alors mise à mort, ça c'est le c'est la chose ultime, c'est-à-dire que ça a existé, mais on pense
plus on a avancé dans le temps, moins
pas tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mettez-vous à la place de la personne qui possède les gladiateurs, parce que ce sont des esclaves.
Des esclaves,
ouais. Donc, il possède une équipe avec des gens qui l'entraînent des fois depuis l'enfance.
Et oui,
il les nourrit, il les entraîne, et puis quand ils deviennent très très forts et très spectaculaires, il va gagner beaucoup d'argent avec. Ouais. Donc,
c'est pas l'intérêt qui soit tué.
Donc, entraîneur de chevaux, un peu comme entraîneur de chevaux, en fait, hein, quelque part. Hein.
Oui, d'accord. Non, mais je pensais que ça avait été, vous savez, que ça avait davantage évolué dans le temps. Mm-hmm. Je pensais qu'au début, c'était vraiment des mises à mort. Mm-hmm. Et là, j'apprends, vous voyez, il y a des mises à mort, mais qu'avec le temps, ça s'est estompé complètement.
Alors après, il y a des mises à mort qui sont des mises à mort, on va dire, légales, puisque et c'est là, quand on pense aux chrétiens dans les
amphithéâtres. Mais quand on met les
tous en bas. Non, là, c'est plutôt l'intermède. C'est-à-dire que le matin, vous avez, souvent, c'est c'est pas vraiment des gladiateurs, c'est des chasseurs. Ils sont là, et on lâche des animaux, et il y a des reconstitutions de chasse. Des chasses avec des animaux plus ou moins exotiques suivant le prix que vous avez mis dans le spectacle.
Parce qu'à cette époque-là, le lieu, parce qu'à cette époque-là, tu ne pouvais pas faire venir un éléphant comme tu faisais, lui, qui est toujours compliqué d'ailleurs.
Figurez-vous qu'on peut. On pouvait. Il y a
mais
évidemment, c'est pas les spectacles de tous les dimanches. C'est vraiment des choses exceptionnelles qui valent très très cher. Et voilà. Donc la plupart du temps, ça va être des animaux sauvages, mais des animaux sauvages qu'on trouve aux alentours, des ours, des cerfs, des choses comme ça. Donc ça, c'est des taureaux déjà.
Et oui, déjà.
Et ça, c'est le spectacle du matin. Et l'intermède du midi, c'est les exécutions. Quelqu'un condamné à mort, il va être exécuté en public et pendant que les gens mangent. Il y a des distributions de nourriture d'ailleurs. Dans les amphithéâtres aussi, on a retrouvé des descriptions qui indiquent qu'on diffuse du parfum. Il y a un parfum d'ambiance avec des brumisateurs.
Vous voyez, on n'a rien inventé. On a copié tout simplement.
On n'aura peut-être pas les brumisateurs ce week-end, mais.
Les
gens peuvent amener leur petite.
Non, mais voyez ce qui me surprend quand vous me parlez des conditions financières. Vous voyez, donc les temps ont changé, les temps ont évolué. Mais voyez, déjà à cette époque-là, il y avait le financement.
Bien sûr,
c'est ça. Le nerf de la guerre.
Et le nerf de la guerre, exactement, c'est ça.
Tout à fait. Alors c'est le moment de faire notre première petite pause. On va écouter une petite musique qui va faire plaisir à un de mes invités, je le sais. Et on se retrouve tout de suite après ça. Nous voilà de retour avec Martine de Dieu, Guillaume Cournil. Donc on parlait alors c'était intéressant la conversation qu'on vient d'avoir parce que elle démontre déjà l'intérêt qu'on a tous, vraiment la curiosité et aussi le besoin qu'on a
de découvrir
vraiment confronter nos idées à la réalité historique, parce que c'est une science. C'est vrai qu'on a été peut-être tous influencés par les albums d'Astérix Obélix. Moi,
mais
je pense aux gladiateurs, je les vois de suite. Je sais
mais
pas
moi aussi, vous savez, quand je vous ai dit le pouce en bas,
exactement. D'ailleurs, c'est peut-être une source relativement fiable. Je ne sais pas si ils étaient bien documentés ou si c'est très...
Alors, Astérix peut-être.
Oui, alors Astérix, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est effectivement très, on va dire... imprégné de culture latine, parce que c'est des auteurs de bandes dessinées qui ont été dans l'éducation nationale et dans l'enseignement public de leur époque, et cet enseignement public, il était très 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 imbibé des humanités et de littérature, et notamment du latin et des auteurs antiques. Donc il y a beaucoup de choses qui passent, mais par le biais de l'humour et par le biais de la caricature, et aussi il y a quand même quelques petites déformations, on va dire, qui sont des représentations qu'on a tous, et voilà.
Mais on peut l'entendre parce que ces sujets-là qui sont quand même au départ très sérieux pour arriver à intéresser les enfants, pour arriver même à intéresser le public en général, il faut qu'on arrive à amener quelque chose et qu'il puisse pensée abordée facilement. Mmh. Et si on a justement autant d'enfants qui viennent aujourd'hui sur la basilique antique ouais. et même au musée, c'est parce que justement on arrive à démocratiser tout ça, c'est-à-dire qu'on arrive à faire venir ces gens qui au départ n'osaient pas, ne pensaient que c'était quelque chose d'infranchissable. Ils arrivent aujourd'hui à venir au musée. On a énormément d'enfants qui viennent au musée, on a vraiment énormément de monde qui vient à la basilique antique, et c'est pour ça qu'on arrive aussi à faire des journées romaines, parce que justement on va intéresser tous ces gens qui n'auraient peut-être pas osé faire le pas, et c'est pour ça que effectivement la ville de Dax est très 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 engagée sur tous ces problèmes qui ne sont pas des problèmes, qui sont plutôt des attractions pour qu'on leur dise allez, venez visiter, venez voir, venez essayer de goûter, essayer de fabriquer, essayer, et vous allez voir, vous allez trouver un plaisir immense à faire ça. Et je voulais avant tout quand même dire que si on arrive à faire ça aujourd'hui sur la ville de Dax, c'est grâce quand même à monsieur Julien Dubois, qui est le maire de Dax, qui est très 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 ouvert à ces nouvelles choses. Alors je tenais à le remercier, parce que ce n'est pas évident d'arriver en proposant des journées romaines, d'arriver en proposant diverses animations comme les Têtes en l'air, comme d'Axel Monnoy, mais on a un maire aujourd'hui sur la ville de Dax qui est très ouvert à ça, qui, bien sûr, il faut expliquer bien entendu, mais qui vous laisse quand même, je pense que Guillaume pourra le confirmer, qui nous laisse quand même une liberté immense, et je tenais quand même à le remercier, parce que tout ce que nous vous proposons là est financé par la ville de Dax, avec les deniers de la ville de Dax, et bon, bien sûr, nous faisons très attention, bien entendu, mais on a quand même une certaine liberté, et je pense que Guillaume le confirmera.
Ah bah oui, il faut regarder notre programmation, vous allez voir, on fait feu de tout bois, oui. Voilà. Merci,
c'est
Julien Dubois, je fais des petits jeux
de
mots.
Ah oui, bien vu, voilà, il fallait, ça fait partie.
S'il nous écoute, voilà. Il appréciera votre jeu de mots,
Il écoutera le podcast, et on fera en sorte que ça arrive entre ses oreilles, en tout cas. Oui, alors donc, oui, puis ça, on parlait tout à l'heure de l'interaction, etc., c'est une technique, entre guillemets, une manière plus moderne, plus intelligente de consommer, entre guillemets, le patrimoine, c'est-à-dire le côté, effectivement, un peu old school, poussiéreux, de juste passer devant des choses qui sont sous du verre avec de la poussière dessus qu'on peut pas toucher, bon voilà, et là tout à coup ça prend une autre ampleur,
on peut toucher, et puis il y a pas de poussière en plus,
voilà. C'est une image, c'est une poussière virtuelle.
Non non, mais oui, effectivement, le principe de ces journées, c'est ça, c'est de permettre aux gens d'être un peu plus immergés dans la culture, avec des gestes, avec des discours, parce que le principe de ces journées, c'est vous allez rentrer dans les arènes, et vous allez voir là il y aura quelqu'un qui frappe des monnaies et qui vous expliquera comment ça se passe, comment on fait, quels sont les outils, et qui vous proposera d'essayer de frapper une monnaie. On va avoir un peu plus loin quelqu'un qui travaille sur les vêtements, quels sont les vêtements, la mode, vous allez pouvoir essayer de passer une toge, et tout ça va permettre en fait aux gens de se poser des questions sur
époque-là.
On n'est pas les premiers à habiter là. Il y a des gens qui ont vécu avant nous. Et voilà, c'est une sorte de petit aller-retour comme ça qui nous permet de réfléchir sur ce qu'on fait aujourd'hui aussi. Ouais.
Et la façon dont le monde a évolué.
Oui.
Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les combats. Comment ils ont évolué, toutes ces choses-là. C'est ça que nous
après, on peut
faire.
Se rendre compte aussi des traces que ça a laissé, même dans notre société encore. On parlait de la mode, alors il y a certains types de sandales ou d'habits amples, de genre un peu toge, etc. Il y a des accessoires de mode qui, en fait,
La mode est un éternel recommencement.
Oui, voilà,
donc, alors on n'en revient pas encore à la tenue. Enfin, c'est surtout pour les hommes, quand même, sur la tenue des Romains, sur les hommes, on n'en voit pas
la jupette,
trop.
La jupette et les sandales.
Voilà. C'est pas trop.
Le kilt, après tout, est-ce que le kilt des Écossais vient de là ou l'inverse, sais-je ?
Allez savoir.
Guillaume, vous ne savez pas.
Non, ça,
Guillaume,
je sais pas. Mais par contre,
vous êtes arrivé à coller Guillaume, ce qui est quand même pas. Facile, je vous assure.
Je couperai au montage.
Non, et après, voilà, le truc, c'est que les vêtements, effectivement, masculins, sont. Il y a des choses à raconter, parce que il faut faut savoir que la culture romaine qui va s'implanter ici sur tout le territoire, en gros, sur tout le pourtour méditerranéen, toute l'Europe, etc. Mmh. Cette culture-là, qui est une culture très très forte et qui imprègne les gens sur les territoires, eh bien, elle vient sur quelque chose qui existe. Il y a un substrat, il y a des gens qui sont là. On n'est pas dans une zone où il y a eu une colonisation. Mmh. C'est vraiment les gens qui vivaient sur ce territoire, qui sont rentrés dans l'Empire romain, qui connaissaient les Romains avant la guerre des Gaules, avant tout ça, et qui vont s'approprier comme ça des codes culturels et qui vont prendre pour eux certains éléments. Et ce qui est marrant, c'est ça, c'est qu'on se dit, quand Rome arrive, le vêtement commun des hommes, c'est la tunique, même des femmes d'ailleurs. Oui. Mais c'est pas les mêmes tuniques. La tunique courte, donc c'est pour ça on pense jupette, c'est ça.
Voilà,
c'est une tunique
c'est ça,
courte avec une ceinture, voilà. Bon, ça c'est l'habit de base. Mais il existe sur le territoire des vêtements qui sont les brés, les pantalons, qui sont eux plutôt d'une culture gauloise, on va dire, pour aller vite. Et ça va s'articuler, ça va perdurer. Il y en a qui vont prendre, quand on regarde les représentations gallo-romaines, le bré, ça devient assez rare. C'est quelque chose qui va un peu s'effacer au profit des tuniques, des toges, évidemment pas pour tout le monde. Hein. La toge, c'est un vêtement très prestigieux. Hein. Tout le monde ne porte pas la toge.
C'est pour les notables de cette époque-là.
Bah, après, moi, je ne suis pas prêt à repartir à la toge. Vous imaginez ces 7 mètres de tissu autour de vous.
Avec le temps qu'il fait, la petite...
ça doit être sympathique.
Le kilt, avec le temps comme ça, c'est très bien. Moi, je le conseille aux auditeurs.
Ah, mais oui, je n'avais pas vu. Là. Vous êtes effectivement en kilt.
Non, je n'ai pas vu de kilt, mais dans ma tête, j'en ai un, je vous assure. On va faire une deuxième pause, c'est le moment d'écouter le Flash Info local ce coup-ci, un petit peu de musique, on se retrouve ensuite pour la troisième partie de cette émission.
Merci.
Nous voilà de retour, alors je voulais vous préciser ce que vous avez écouté, parce que vous êtes un peu surpris.
Exactement, c'est ce qu'on se demandait avec Guillaume, on se disait, alors on a cru reconnaître la lyre.
Ouais, oui, alors je pense qu'il y a la lyre, il y a aussi une sorte de bombarde, enfin de la famille des hautbois un peu, avec la même type de hanche. Alors en fait, c'est une musique qui est extraite d'un fameux triptyque de Jérôme Bosch, Le Jardin des Délices. Si un jour vous avez la chance d'aller au Prado à Madrid, je vous assure que vous pouvez rester une heure devant ce tableau qui est merveilleux, avec énormément de détails. Et à un endroit, il y a un personnage à quatre pattes, et sur ses fesses, il y a une toute petite partition qui a été peinte. Et il y a des gens, évidemment, ils ont pris des photos de résolution, ils ont scanné, reconstitué, et ils ont réussi à retrouver la partition. Et ils ont fait une interprétation sûrement plus ou moins libre, hein, parce que les informations qu'il y avait dessus étaient succinctes. Et ils ont fait une musique. Hein, voilà. Donc ils ont reconstitué la musique, la musique du derrière de Jérôme Bosch, qui est caché dans un tableau de Jérôme Bosch. Voilà, c'est de l'anecdote, mais c'est pas...
Écoutez, c'était très agréable à écouter toujours.
C'est apaisant.
Ouais, c'est vrai, apaisant, tout à fait.
Les petites notes médiévales qu'on a bien reconnues un petit peu.
Mais la lyre, on l'entend bien.
Et du coup, c'est pas un hasard, c'est parce que, voilà, dans la culture, le patrimoine, tout ce qui est ancien, on va découvrir des choses... Souvenir FM, nous, on passe des musiques un peu anciennes, mais pas si anciennes que ça en général. Hein. Mais là aussi, on va pouvoir découvrir, parce que ça, c'est une curiosité en fait pour les gens. La partie musicale, l'antiquité, tout ça, on ne sait pas trop des fois.
Ah oui, on manque de sources, pas d'enregistrement, pas de partition.
Ben non.
Voilà, donc là, ça limite beaucoup le champ d'action. N'empêche, les archéologues sont persévérants. Et puis, il y a des historiens qui étudient les textes. Et les représentations, que ce soit des mosaïques, des bas-reliefs, on a comme ça une petite série d'instruments quand même qu'on connaît. On a cette forme, on arrive à reproduire, quand on fait de l'archéologie expérimentale, on reproduit ces objets et on essaye de faire de la musique à partir des données qui sont connues par les textes. Voilà. Donc il y a des gens qui reconstituent et là il y aura évidemment quelqu'un qui va venir présenter quelques instruments.
Ça, c'est chouette, ça.
Des lyres, c'est ce genre.
Non, ce que je voulais savoir, c'est que j'ai pas l'impression qu'à cette époque-là, vous savez, il y avait des groupes. Enfin, j'ai essayé de me documenter, je n'ai pas trouvé. Vous savez, comme là aujourd'hui, on a des groupes de personnes qui chantent, on a. Et j'ai pas l'impression qu'à cette époque-là, c'était. Nous, on finit aujourd'hui tous nos repas avec des chansons. 9 fois sur 10 dans le Pays Basque, dans les Landes, ça se fait beaucoup.
Oui.
Est-ce qu'à cette époque-là, ça se faisait comme ça? Je n'ai pas l'impression, mais c'est parce que je n'ai pas trouvé la documentation nécessaire, sûrement.
Il y a des gens dont c'est le métier. Ils sont musiciens et ils sont embauchés pour, par exemple, un notable qui fait une soirée conviviale dans sa maison, dans sa domus en ville. Mmh. Bah, il va avoir
oui,
des
chanter,
musiciens.
Mais c'est une personne.
Alors,
moi, ce
il
que
peut
je
y
pensais,
avoir...
Vous savez, un groupe comme on fait, comme on avait les cantadores, des choses comme ça, voyez, où tous ces gens se regroupent à plusieurs. Et j'ai pas l'impression...
Il devait y avoir des formations. Le truc, c'est que voilà, on n'a pas d'exemple très très concret. On sait, par exemple, que y a des musiciens qui sont embauchés pour certains travaux des champs. Ils sont là pour donner le rythme. Des
temps de tambour pour les galères.
Voilà, j'imagine que voilà quelqu'un qui va faire de la musique pour les vendanges et qu'il faut s'activer parce qu'il va pleuvoir.
Ah oui, voilà. Donc là, il va
jouer plus vite. Et j'imagine que sur des hectares d'exploitation agricole, il fallait des instruments qui portent loin et peut-être plusieurs instrumentistes. Donc peut-être des groupes. Maintenant, il faut pas. Nous, on a une sorte de culte autour de ces de certains musiciens, certains artistes. Il n'y a pas forcément cette notion-là.
Pas de star, on va dire, entre guillemets.
Mais tu peux difficilement avoir une star. Aujourd'hui, tu as une star parce que tu as des moyens de communication qui te permettent.
Oui.
Là, on est quand même à l'époque romaine, donc on en est loin de ça.
Oui, mais par exemple, pour revenir à nos amis gladiateurs, certains gladiateurs étaient devenus des vrais stars. Avec
Spartacus.
Avec des produits dérivés qui étaient vendus autour des amphithéâtres, des gens qui décoraient leur maison avec des scènes de certains combats de ces gladiateurs. Donc les musiciens, pourquoi pas, mais on n'a pas ça. Alors on trouve, il y a des musiciens qui sont dans des fresques à Pompéi, on en a, on voit des grandes flûtes, là, ils jouaient avec deux flûtes en même temps,
ça s'appelle
les tibias.
Oui, oui.
Voilà, on a ça. Maintenant, ils ne sont pas restés dans l'histoire, on n'a pas leur nom.
Parce que vous savez que dans le Pays Basque, les paysans, quand ils devaient se parler, bon, ils étaient loin les uns des autres, ils se parlaient par son. Ils envoyaient des sons et ils se parlaient comme ça.
Il y en a qui sifflent aussi. Il y en a qui sifflent dans le Béarn.
Oui, voilà. Non, mais quand je dis des sons, effectivement, c'est en général, c'est sifflé.
Oui.
Et ça devait se faire plus ou moins comme ça. Alors, c'est vrai que pour aller voir un gladiateur, il fallait quand même, je pense qu'il fallait d'abord beaucoup de motivation, parce que là, tu le faisais à pied ou en charrette. Je veux dire, t'avais pas taxi, t'avais pas le métro.
Le rythme de vie n'était pas le même.
Exactement.
Non plus. C'était plus acceptable peut-être faire une semaine de route ou deux jours que ça l'est pour nous maintenant, j'imagine, forcément.
Alors et quand on regarde un peu les infrastructures qu'on a retrouvées récemment, on a retrouvé à Dax les vestiges de l'amphithéâtre gallo-romain. Donc quand on voit les proportions de ces bâtiments, on voit directement que c'était des équipements qui étaient conçus pour le territoire entier. C'est-à-dire que vraiment, quand il y avait des spectacles, c'était pas tous les jours, mais quand il y avait des spectacles, les gens venaient de tout le territoire, quoi. Et c'était sur la journée, je vous dis, c'était des il y avait beaucoup de jours fériés aussi dans le calendrier, mais
on en a beaucoup encore.
Oui, c'est vrai, mais moi je trouve qu'il
n'y en a jamais trop.
On en a beaucoup encore.
Donc du coup, voilà, on a beaucoup d'informations sur ces phénomènes-là. Donc les gens viennent de loin, et ces équipements sont conçus comme des équipements publics. Et en plus, à Dax, on est dans le chef-lieu du territoire, c'est-à-dire c'est la capitale d'un territoire qui prend une grande partie des Landes et puis les Pyrénées-Atlantiques aussi.
Oui, oui.
Et donc ces chefs-lieux là, ces villes capitales, elles ont ces équipements, on retrouve partout ces équipements, et ça donne des indications sur le peuplement et sur le nombre de personnes qu'on pouvait avoir dans ces lieux.
Guillaume a entièrement raison, parce que bon, il a évoqué là, c'est vrai que rue de la Croix-Blanche, on a retrouvé des vestiges monumentaux.
C'est ça.
Et c'est vrai que toute la ville de Dax, partout où on fait des trous, on trouve toujours quelque chose. Alors c'est bien, mais c'est pour la personne qui doit faire les travaux, c'est toujours un petit peu compliqué parce que tout s'arrête, on doit attendre.
Ah, il y a une législation pour ça.
Exactement,
bien sûr.
Exactement. Mais la ville de Dax est très 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 riche en archéologie, c'est vrai, on ne peut pas le nier. Et c'est très bien pour les anciens, pour nous, pour les jeunes générations qui arrivent. Ce devoir de mémoire est quand même très important aussi.
Ben oui, il faut savoir un peu d'où on vient, parce que justement, on parlait des arènes, c'est un endroit quand même important à Dax et puis dans les Landes en général. C'est vrai que, voilà, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est cette manière de faire du spectacle, entre guillemets. C'est vraiment une tradition qui découle directement des Romains. Je ne sais pas si eux-mêmes l'ont pas un peu pompé, parce que les Romains, ils étaient quand même forts pour pomper sur les autres aussi. Hein.
Tout ce qui marche et tout ce qui va bien, ils récupèrent.
Eh bien, c'est normal. Je veux dire, quand ça marche, pourquoi ne pas continuer, pourquoi ne pas l'essayer? Et quand ça ne marche pas, autant arrêter de suite.
Voilà.
Mais d'ailleurs, Guillaume vous disait qu'il y avait des taureaux qui étaient là, qui se battaient. Moi, j'ai parlé de l'éléphant, mais c'était un petit peu exagéré.
Oui.
Mais il y avait déjà des taureaux à l'époque.
Oui, voilà.
Est-ce que c'était des taureaux de combat? On ne sait pas exactement.
Sauvage, pas sauvage.
Exactement. Bon. Voilà, c'est compliqué. Sauvage, il fallait les attraper. Enfin, dirait dans tous les cas.
Ils avaient des techniques de chasse.
Ouais, j'imagine.
Ils capturaient les animaux vivants beaucoup. Et on a des représentations et des descriptions de chasse pour les cerfs, où en fait c'est des battues où ils ont aménagé les forêts avec des filets, avec des plumes, avec
des choses. De façon à les guider.
Vers un enclos, et là ils ont capturé les animaux vivants, c'est plus facile à conserver pour
la nourriture.
Ça permet de les vendre pour ce genre de
combat, de spectacle. Ah oui, voilà.
Et oui, c'est un lieu aussi.
Pour revenir aux découvertes récentes, là, donc effectivement, vous disiez, Martine, qu'on a des découvertes un peu partout, puisque une ville, c'est une ville vivante, elle fait des travaux, elle aménage, et du coup, à chaque fois, c'est une occasion d'aller voir nos racines, nos archives qui sont sous nos pieds. Et en ce moment, il y a des archéologues qui sont à pied d'œuvre, là, pour suivre les chantiers de réaménagement du centre-ville. Et donc, on aura, c'est pas ce week-end, c'est le week-end du 13 et 14 juin, c'est les journées européennes de l'archéologie
ouais.
Où on va avoir les archéologues en train de travailler qui vont vous raconter un peu ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils ont vu, parce que souvent il faut aller vite, même si on s'arrête et qu'on demande ce qu'ils font, ils n'ont pas trop le temps, là ils vont prendre le temps.
C'est vrai, ouais.
Donc on aura un archéologue de EVA qui va venir nous parler de ses découvertes sur le cours de Verdun, et puis un autre archéologue, celui qui a découvert l'amphithéâtre de Dax, qui va venir nous présenter ça. Il y aura une restitution, on va voir à quoi il ressemblait, ça va être chouette.
Mais on a samedi à 17h, on a quand même, au niveau du site antique, on a quand même l'épigraphie latine. Oui. C'est-à-dire quoi? On va avoir Philippe Mauger, qui est un chercheur associé à l'Institut de l'Université de Bordeaux, qui va venir et qui va expliquer le cheminement sur le site antique pour comprendre exactement comment sont les textes gravés. Donc on a toutes ces...
C'est des inscriptions, des hôtels.
Alors, il y en a quelques-unes qui sont, on en a un certain nombre quand même, qui sont sur le site antique, et il va venir expliquer comment ça a été écrit, ce que ça veut dire peut-être.
Oui.
Il doit maîtriser tout ça.
C'est des
et
sources.
Ça veut dire, mais je vais vous laisser parler. À 17h, comme ça, c'est un rendez-vous aussi qui est important. Ça sera sur le site antique.
Oui. Ça fait partie des rendez-vous qu'on donne régulièrement à nos publics. Là, ça s'appelle les samedis de l'archéologie. Et là, ça tombe pendant les journées romaines.
Et
donc
c'est parfait.
Et du coup, on invite des chercheurs qui viennent et on fait la balade sur le site avec eux. Et on les a sous la main, donc on leur pose plein de questions. Et c'est très interactif.
Tout le monde peut poser des questions. Il
n'y
a pas que, vous. Voilà, ça veut dire... Non, mais c'est vrai, parce que souvent aussi, après, il y a des questions auxquelles on n'aurait pas pensé, des petites questions saugrenues. Qu'un enfant peut poser ou comme ça. Et c'est là où ça devient très très intéressant. Ça l'est toujours très intéressant, mais sur ça, on apprend des choses nouvelles, sur des choses qu'on n'aurait pas pensé nous-mêmes.
C'est bien pour des questions.
Exactement.
On a utilisé ChatGPT, on a Guillaume Cournil aujourd'hui, et c'est quand même sympa.
C'est beaucoup plus vivant.
On va faire une autre dernière petite pause pour atteindre la dernière partie de cette émission. Allez, on se retrouve après ça. Et voilà, c'est la dernière partie de cette émission. On va bien entendu faire les rappels de rigueur, parce que je crois qu'on a suffisamment donné l'eau à la bouche à nos auditeurs.
On espère,
Qu'ils vont avoir envie de venir voir ça, parce que c'est un événement.
C'est pas tous les jours.
Non, c'est ça. Ça deviendra peut-être un jour le Puy du Fou du Grand Dax, on ne sait pas.
On sera mieux.
on espère.
On espère aussi, effectivement. Ouais. Alors, on va vous
Ce week-end,
voilà, le 30 et le 31 mai,
voilà.
Donc les fameuses journées romaines
de la ville
de Dax, donc qui auront lieu, comme on vous l'a dit au début, au Parc des Arènes, sur le site antique. Alors, le site antique, on n'a pas donné vraiment l'adresse, c'est dans la rue Cazade. Donc, ces journées romaines qui vont commencer de 9h30 à 18h, donc sur ces deux sites, sur les deux sites, les horaires sont identiques. Donc, à l'intérieur du Parc des Arènes, on va avoir la reconstitution historique de, mais de différentes choses qui se sont passées.
Les combats de gladiateurs.
Voilà, exactement. Ça. Les combats, de quoi fabriquer mais de la monnaie, de quoi goûter, d'aimer. Bon, voilà, un village antique au cœur des arènes, très simplement. Au niveau du site archéologique, nous allons avoir site antique, nous allons avoir donc les visites commentées. Enfin, moi, je conseille vraiment de venir voir ces visites commentées. Déjà, s'il fait très chaud, vous êtes dans un endroit qui est très, très agréable parce qu'il est tempéré. Voilà, donc nous avons, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, au cœur des arènes, à l'intérieur des ateliers de démonstration. Et tout ça, avant tout, est gratuit. Tout ça est gratuit de faire à tout ce public-là qui vienne, qu'il soit grand, qu'il soit petit. On vous conseille de venir passer 2 jours pour découvrir tout ce qui se passait à l'époque romaine dans un milieu très agréable. Donc, que ça soit, je me répète, dans les arènes ou le site antique, et tout ça gratuitement, offert par la ville de Dax, le maire de Dax.
Très bien. Bon, voilà,
on n'a plus qu'à prier les dieux pour avoir le beau temps, mais après, c'est
voilà.
Fait. Ça fait 40 ans qu'on bichonne Mercure et Esculape.
Voilà,
on leur
ça,
a
ouais.
redonné un peu de public. Là, et, voilà. Donc, je pense qu'ils sont avec nous, on le voit. Là.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure hors antenne. Voilà, tout ce qui est de la culture populaire qui a même gardé des traces. Hein, voilà, on parlait d'Astérix Obélix. Je parlais hors antenne de Kaamelott. Hein, voilà, pour ceux qui connaissent cette série, il y a des moments où Arthur, il est chez les Romains. Et on voit effectivement, il a gardé des habitudes de vénérer des dieux romains, voilà. Qui,
parce que... Vous avez remarqué que Guillaume vénère régulièrement, hein.
Oui.
Donc,
oui, oui, ben, il fait ce qu'il veut.
Ah, non,
tous les jours, nous on prend soin de Mercure, on le conserve, on le bichonne,
voilà.
Et voilà. Donc,
et on a les résultats. On a les résultats.
On voit les résultats.
Il est dieu de quoi, Esculape?
Alors, Esculape, c'est plutôt la médecine.
La médecine, c'est ça.
C'est un
oui, voilà.
Dans une ville de curistes, c'est logique qu'on ait trouvé ça, parce que déjà à l'époque c'était une ville thermale, donc voilà. Et puis Mercure, qui est un dieu, alors là, c'est un dieu superstar sur le territoire gallo-romain. Et c'est un dieu, alors dieu du commerce, dieu des animaux, enfin des bergers.
Multitâche,
dieu des,
multitâche.
Voilà, c'est un multitâche.
C'est pas mal,
et
multitâche.
Très, 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 très vénéré sur le territoire.
Très bien.
Oui, parce qu'on a parlé de tout, sauf de cette fameuse légende de notre chien qui a découvert le Péloïde. Nous avions le légionnaire qui était venu à Dax, qui était ici à Dax, qui devait partir guerroyer. Il avait son chien qui était perclus de rhumatisme. Il a laissé, c'est moi qui suis à la protection animale, j'apprécie pas vraiment, il laisse son chien là au bord de la
Doubs.
Il y a prescription, vous avez raison. Mais après, il revient et il voit ce chien là qui est en pleine forme. Et donc, et pourquoi? Mais parce que là, c'est comme ça que nous avons découvert le Péloïde.
Voilà, ça, il s'est dit, tiens, il s'est passé quelque chose.
Il s'est passé quelque chose.
Voilà.
Il est content de revoir son chien et nous, on découvre le Péloïde.
Et voilà.
D'ailleurs, depuis, on l'utilise puisque nous sommes une ville thermale, une des premières villes thermales de France.
C'est ça, très bien.
Donc au-delà des légendes, il y aura des légionnaires. Je ne sais pas s'ils auront un chien, mais voilà, il y aura des légionnaires, c'est sûr.
Très bien, mais merci tous les deux d'être venus pour cette discussion. C'était, Martine, on est d'accord, c'était passionnant.
C'était passionnant.
On peut y passer 2 heures.
Tout à fait. Mais vous savez qu'on pourrait rester beaucoup plus longtemps parce que Guillaume aura encore énormément de choses à nous apprendre.
Voilà. Non, le mieux, c'est de venir ce week-end.
Mais oui,
vous allez voir, ça va être passionnant.
Exactement. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'au moins, on pourra voir directement des choses et ça, c'est chouette. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
Bon retour, au revoir.
Et à samedi et dimanche.
À samedi et dimanche, bien sûr.